Séquence Midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, merci d'être au rendez-vous de votre séquence midi. Au menu du jour, votre rendez-vous cinéma du mercredi et on partira en Islande. On vous fera découvrir aussi les combats du groupe écologiste à la région autour de l'eau. Mais tout de suite, je vous propose de célébrer un anniversaire, celui de l'association Autour du Pont Neuf. Et pour en parler, on accueille Dominique Leblanc qui est président de l'association. Bonjour.
Bonjour.
Et Serge Rivet, qui est membre du CA. Bonjour.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être là. Alors, 30 ans d'une association et puis aussi ce quartier, le Pont-Neuf, en pleine rénovation ou en tout cas en plein chamboulement. Peut-être on pourrait commencer par ça. Votre avis à vous, tous les deux, sur tous ces changements dans le faubourg du Pont-Neuf et dans le quartier plus globalement.
Bon, je pense qu'on peut dire qu'on est plutôt satisfait parce qu'on trouvait que les voitures étaient vraiment très, très présentes, trop présentes. Et on entendait beaucoup dire qu'il y avait entre 200 et 300 voitures par an supplémentaires avec les nouveaux logements, les nouveaux immeubles qui se construisent, pas que pour des étudiants. Donc la circulation devenait très difficile et même nos adhérents, qui ne sont pas toujours très jeunes comme moi, hein, c'est vrai qu'on se disait que pour marcher sur les trottoirs, ça devenait difficile.
Et vous, Dominique ?
Je crois qu'il va falloir tester, hein. Ça fait à peine un mois que la circulation a repris. Peut-être un petit point qu'on peut faire maintenant sur les premiers retours, hein, puisqu'on a déjà des retours de riverains, d'habitants, de personnes qui traversent le quartier. Bon, il ne faut pas se cacher que ces travaux, effectivement, ont duré un an. Nous, au niveau du comité de quartier, on a essayé de relayer au mieux les attentes, les critiques, les coups de gueule d'un certain nombre de personnes qui habitent ou qui traversent le quartier. Et voilà, il y a toujours des problématiques en cours, hein, que ce soit sur la question du stationnement. Ça surprendra personne, je pense, parmi vos auditrices et auditeurs. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut, donc, pour lesquelles nous, on va être vigilants, c'est clair. Je suis venu, moi, tout à l'heure, en voiture, juste pour tester, là, parce que j'habite donc le quartier du Pont-Neuf. Ce qu'on peut constater, quand même, c'est un vrai apaisement au niveau circulation, avec beaucoup moins de véhicules automobiles. Une sécurisation des vélos, ça, c'est clair et net. Après, sur la durée, il y aura des choses à revoir. On fait une réunion, d'ailleurs, j'en profite d'être ici pour annoncer que le lundi 14 octobre, de 18 à 20 heures au Confort Moderne, on organisera une réunion du comité de quartier. C'est le comité de quartier qui organise pour avoir un premier retour. On en a déjà pas mal, hein, que ce soit par mail, par courrier ou via les permanences qu'on organise au local du comité de quartier, qui est à l'entrée du Confort Moderne, pour le signaler. Donc voilà, on va dire que, comme ça a été dit il y a fort longtemps maintenant, le bilan est globalement positif, avec un certain nombre de points sur lesquels il faudra revenir, quoi. Voilà.
Alors, l'association Autour du Pont-Neuf est née donc, il y a 30 ans, en 1994. À l'époque, comment ça s'est passé? Qui a voulu un petit peu créer ce comité de quartier?
À l'origine, le quartier a été issu d'une mobilisation citoyenne. Les riverains et les riveraines se sont mobilisés pour dire leur étonnement devant les constructions qui se multipliaient, devant les opérations et la pression des promoteurs immobiliers qui proposaient quelquefois des sommes très importantes pour racheter les jardins, pour racheter les petites maisons.
Déjà à l'époque ?
Déjà à l'époque, c'était surtout ça qui avait justifié l'organisation d'un collectif au départ. Et ce collectif est devenu un comité. Moi, je trouve que c'est un comité citoyen qui garde son âme, qui garde son esprit. On essaie de protéger la population, on essaie de protéger les uns les autres, peut-être plus les plus vulnérables. Et donc, on essaie d'agir sur la qualité du logement, beaucoup. Et par exemple, sur l'efficacité énergétique, parce que les factures explosent. Donc, on a beaucoup d'adhérents très modestes qui ont des difficultés pour se chauffer correctement ou pour rafraîchir leur logement l'été. Donc, c'est maintenant vraiment la principale activité, c'est d'être là comme une vigie pour se défendre et être solidaires les uns avec les autres. Après, nous proposons des activités à la demande et en fonction de l'initiative des unes et des uns, quoi.
Et en 30 ans, est-ce qu'il y a eu un peu des combats forts, des moments qui ont émaillé un petit peu l'histoire de cette association ?
Serge vient de le repréciser, c'est clairement la question du logement, la question immobilière en particulier, hein, qui à l'époque avait démarré plutôt sur la route de Jancey, avec quand même beaucoup de destruction de maisons probablement que la situation aurait été bien pire si, effectivement, cette mobilisation des habitants n'avait pas été aussi forte. Je pense que ça, c'est assez évident. Je crois que c'est vraiment le marqueur, quoi. Le marqueur principal a été... l'est beaucoup moins parce que les permis de construire se sont un peu évaporés là, depuis quelques temps. Alors, à la faveur, là aussi, de la continuité ou de la continuation des mobilisations de riverains, hein. Ça a été le cas sur ces deux ou trois dernières années. C'est beaucoup plus calme aujourd'hui parce que on sait dans quelle crise on est au niveau immobilier. Et malgré le fait qu'on soit situé entre le centre-ville et l'université, les programmes se sont bien atténués, mais il y en a encore assez régulièrement. Cela étant, Serge l'a également rappelé, les activités qui sont menées par le comité de quartier sont multiples, hein, que ce soit des événements liés un peu à l'histoire du quartier, la Saint-Saturnin par exemple, qui se déroulera au mois de novembre. Après, on a un goûter annuel plutôt tourné en direction des seniors, comme on dit, ou des anciens, ou après le loto, on espère au mois de juin prochain le retour du grand bazar avec le confort moderne, qui est une activité plutôt de vide-grenier, concerts, expositions, etc. C'est aussi s'associer à des activités qui ont lieu dans le quartier, et le confort moderne, c'est quand même un point d'appui important pour nous.
Et donc, ce week-end, 28-29 septembre, une grande fête pour les 30 ans. Et vous êtes associé pour ça au collectif des Dunes, qui a réalisé... racontez-nous peut-être justement ce projet du collectif des Dunes.
Encore un projet citoyen, on peut dire. Peut-être avec un intérêt supplémentaire, c'est qu'il a mobilisé... ce n'est pas une association, hein, contrairement au comité de quartier, mais c'est vraiment un collectif de plus jeunes, on va dire, souvent des parents qui ont des enfants dans les écoles maternelles Petit Tour et Pasteur et l'école élémentaire Coligny-Cornet, et qui ont trouvé que le terrain qui est situé à l'arrière du secteur militaire, la caserne à Beauville, et derrière les logements de gendarmes, donc ce terrain qui était complètement nu, ça aurait été intéressant d'en faire quelque chose. On nous projette depuis des décennies une nouvelle école dans ce secteur qui n'a toujours pas trouvé... donc le projet n'avance pas pour de multiples raisons. Mais en tout cas, l'idée, c'était d'utiliser une partie de ce terrain pour en faire une sorte de... pas de terrain d'aventure, mais une sorte de forêt. Voilà. C'est devenu aujourd'hui, trois ans après les premières esquisses, la forêt des Dunes. Tout le monde appelle ça comme ça maintenant, parc des Dunes, forêt des Dunes. Et ça va être l'occasion de mettre en valeur le travail qui a été fait par toutes ces personnes, tous ces habitants, habitantes du quartier, bénévolement, avec l'appui bien évidemment de la municipalité pour un certain nombre de plantations. Mais c'est vraiment mettre en valeur ce terrain et donc y organiser une grande après-midi le dimanche après notre, mais peut-être Serge y reviendra, notre après-midi du samedi, plus patrimonial, on va dire, et balade dans le quartier.
Venons-en à ce samedi, donc à partir de 14h30, il y a plusieurs rendez-vous qui sont prévus pour les 30 ans du comité.
Oui, donc 14h30, rendez-vous... devant le cimetière de la rue du boulevard du recteur Pinault. Et à partir de 14h30, nous allons déambuler, faire des haltes, plusieurs haltes à la fois historiques et pédagogiques, avec des présentations, avec des lectures de textes, pour connaître le quartier, pour apprendre l'histoire des différents lieux. On a même prévu un triporteur pour pouvoir emmener deux personnes qui pourraient être fatiguées de la déambulation. Mais donc, au fil de l'après-midi, eh bien, on pourra se retrouver en partant donc de la hauteur du Pont Neuf. On descendra tout doucement pour aller sur le site Pasteur et terminer l'après-midi sur Montbernage par un pique-nique et quelques animations
musicales
en particulier. Voilà, donc 14h30 le rendez-vous.
14h30 pour la promenade commentée, 17h30 c'est l'animation musicale sous la pénétrante, et puis 19h apéro, pique-nique pour prolonger la soirée. Un grand merci à tous les deux, donc Dominique Leblanc et Serge Rivet, d'être venus nous parler de ces 30 ans de l'association Autour du Pont Neuf, et rendez-vous donc ce week-end, samedi et dimanche, pour fêter cet anniversaire. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
On continue en musique avec Puerto Candelaria Big Band, un phénomène colombien qui mêle musique traditionnelle au théâtre, à la danse et à l'humour, pour parler de la Colombie controversée d'aujourd'hui.
Ah ouais.
Et notre second invité du jour, c'est Stéphane Trifiletti, conseiller régional de Charente-Maritime et coprésident du groupe Écologiste Solidaire et Citoyen au Conseil Régional. Bonjour.
Oui, bonjour à toutes et tous.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler d'une initiative que vous avez proposée au niveau du Conseil Régional, c'est de créer une convention citoyenne sur l'eau. Mais d'abord, peut-être revenir sur ce qui vous a amené à cette proposition. C'est une mission d'information et d'évaluation de la politique agricole et alimentaire régionale qui a été mise en place. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette mission d'information ?
Alors sur le papier, effectivement, c'était une demande qui était intéressante, puisque c'était l'ensemble des groupes politiques qui ont demandé, finalement, à un moment donné, suite au mouvement de crise qu'on a connu dans les campagnes, et notamment dans le monde agricole, eh bien de faire une espèce d'audit, donc à travers cette mission d'information et d'évaluation de la politique publique menée par la région Nouvelle-Aquitaine, pour essayer tout simplement d'objectiver les choses et voir comment on pouvait dans un deuxième temps réfléchir un certain nombre de politiques et réinterroger un certain nombre de politiques.
Donc, c'était une démarche intéressante parce que pour une fois, tout le monde se mettait autour de la table et réfléchissait un petit peu à l'action publique en fait.
Oui, tout à fait. Et ça correspond assez aussi à l'ADN écolo, finalement, de cette co-construction. Vous avez l'habitude de ça, notamment, par exemple, sur la ville de Poitiers. On essaye, nous, de le mettre en œuvre au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Et c'est vrai que la démarche paraît comme particulièrement intéressante, voire innovante, dans la mesure où on peut aussi construire quelquefois, et c'est là où c'est intéressant, des consensus. Malheureusement, et c'est peut-être de ça dont on va parler aujourd'hui, eh bien, finalement, cette mission d'information et d'évaluation, elle accouche d'une souris. Elle accouche d'une souris, pourquoi ? Parce qu'il fallait absolument parler d'alimentation, il fallait parler effectivement du fait qu'il y ait un parent sur trois, par exemple, qui ne mange pas quotidiennement pour laisser à manger et nourrir ses enfants. Et toutes ces questions-là, finalement, elles ont été complètement éludées, alors qu'elles sont présentes dans le rapport en lui-même, mais que dans la déclinaison des politiques publiques, pour le moment, on interroge simplement un tout petit bout de la lorraine. C'est pour ça que je disais accoucher d'une souris, c'est-à-dire l'hydraulique agricole, qui est en fait destinée à une infime minorité d'agri-managers et qui est bien loin de la souveraineté alimentaire qu'on souhaite et puis tout simplement de la défense du monde paysan que l'on souhaite également.
Et alors, quels sont les constats que vous avez pu faire grâce à cette mission d'information ? Est-ce qu'il y a des choses en particulier que vous avez retenues, vous ?
Alors, dans cette mission, on a eu plusieurs entrées. La première, c'était essayer de trouver les grandes caractéristiques et les grandes tendances de la filière agricole néo-aquitaine, avec, là aussi, essayer de comprendre quels sont les défis qui se posent aux agriculteurs. Moi, j'en individualise essentiellement deux. C'est la transmission notamment des exploitations. On a un plan massif dans les campagnes finalement de destruction de l'emploi agricole par suppression et puis agrandissement progressivement des exploitations agricoles. C'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est absolument le prix et le prix de ce qu'on produit et de ce qu'on mange qui est fondamental, puisqu'à l'heure actuelle, vous le savez sans doute, il y a à peu près 18% du monde agricole en Nouvelle-Aquitaine qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Bon, on en a une bonne partie, on pourrait y revenir aussi, qui peut vivre tout à fait convenablement et qui capte malheureusement 80% des aides PAC, à peu près 20% des paysans qui captent 80% des aides PAC, et puis une vraie détresse dans les territoires, avec des conséquences, on le sait, c'est l'agrandissement, c'est l'arasement des haies, donc c'est des systèmes agricoles qui sont de plus en plus simplifiés et donc qui sont inadaptés à la fois à la problématique climatique et puis d'autre part, qui sont inadaptés parce qu'elles créent, et c'est bien pour ça que je parle de crise, il y a non seulement crise du monde paysan, mais il y a aussi crise à travers ça de la biodiversité avec un effondrement du vivant. Et c'est toutes ces thématiques-là qu'on a pu aborder justement pendant cette mission, avec, on va sans doute en parler, des préconisations qui sont sorties de tout ça. Et malheureusement, les préconisations qui sont sorties, je vous dis bien, pour le moment, concernent essentiellement l'hydraulique agricole qui est dédiée simplement à une toute petite partie de la profession, alors qu'il faut avoir, on le voit bien, dès qu'on essaye d'analyser les choses, une approche globale sur cette thématique de l'alimentation, parce que rappelons-le, manger c'est aussi un plaisir, et puis on le fait tous, toutes et tous, 1000 fois par an.
Pour rappel, la PAC, c'est la politique agricole commune, donc c'est les financements qui viennent de l'Europe. Alors vous avez proposé d'aller plus loin en créant une convention citoyenne sur l'eau, puisque c'est la partie hydrologique qui intéresse apparemment surtout la région. En quoi ça consisterait ?
Écoutez, on connaît la Convention citoyenne sur le climat et on sait le bon boulot que les citoyens sont capables de faire, citoyennes et citoyens donc sur le terrain, parce que si on les forme, eh ben, ils sont capables de complètement intégrer un objet politique et puis effectivement faire, eux, des propositions qui sont complètement raccord avec les problématiques terrain. Et donc l'idée, c'était de dire, bon, cette mission d'information et d'évaluation des politiques publiques agricoles, elle accouche d'une souris, mais ça, on s'en doutait un petit peu, et surtout, elle risque de se terminer. Et on l'a dit en introduction, c'était un exercice démocratique qui était particulièrement innovant. Donc pourquoi s'arrêter là ? Et pourquoi finalement ne pas accompagner à nouveau cette mie que nous on appelle de nouveau pour qu'elle puisse perdurer et puis faire qu'elle soit tout simplement mise en perspective et surtout qu'elle soit en capacité de travailler avec les citoyens. Donc c'était l'idée d'une convention citoyenne sur l'eau. Alors l'eau, thématique eau par définition, nous en Ex-Poitou-Charentes, vraiment importante. On sait que nos territoires vraiment souffrent et que le débat est parfois brutalisé, voire quelquefois hystérisé. Donc il y a toutes ces questions-là qui sont évidemment posées et qui, mieux que des citoyennes et des citoyens, pour essayer de s'emparer de ce sujet, faire des propositions concrètes concernant l'eau et puis quelque part ramener du bon sens, je dirais presque du bon sens, alors pas paysan parce qu'il peut y être aussi, mais du bon sens citoyen pour recréer les conditions d'un débat rationnel bien plus démocratique sur le partage de la ressource en eau à l'intérieur, sur nos terroirs et sur nos territoires. Donc c'était ça l'idée en quelque sorte, élargir nos travaux, partager, co-construire avec les citoyens et puis derrière être en capacité de faire un suivi, des évaluations et surtout des propositions parce qu'il faut absolument dans nos territoires picto-charentais sortir des guerres de l'eau.
Et alors cette convention citoyenne, vous allez la proposer et à quel moment elle pourrait éventuellement se mettre en place
Mais écoutez, malheureusement, on va remettre l'ouvrage et on va en reparler. Malheureusement, donc j'ai présenté hier donc à la région Nouvelle-Aquitaine en plénière du conseil régional cette proposition. Pour le moment, elle était ajournée, mais mon groupe et puis l'ensemble des bonnes volontés sont les bienvenus pour prolonger ce travail parce qu'on espère qu'il va aboutir parce que tout simplement c'est faire, je vous le disais à l'instant, être en capacité de dépasser les gardes de l'eau dans nos territoires. Oui, si on dit l'eau est un commun, si l'eau est un commun, on doit à la fois, c'est vrai, le partager à travers des usages, mais au-delà même de cette vision extractiviste, se poser la question de est-ce que l'eau n'est pas la matrice du vivant, puisque nous sommes nous-mêmes composés massivement d'eau, vous le savez, que nous mangeons, je vous l'ai dit, 1000 fois par an, que nous buvons et que c'est le premier aliment consommé, et donc que c'est d'abord une problématique citoyenne. Donc il faut à nouveau, dans cette démocratie de l'eau qui est très imparfaite en France, puisque les citoyens finalement se sentent très loin de ce qui existe en termes d'institutions à l'heure actuelle sur l'eau, et bien leur donner la possibilité évidemment de créer les conditions du débat et surtout d'être formés. Et je suis sûr, nous sommes sûrs qu'effectivement on peut arriver à une gestion durable, équitable et partagée de cette ressource vitale, tout simplement en ramenant de la démocratie. Alors c'est les écologistes, certes, qui le disent, mais vous savez, notre GIEC régional qui s'appelle Aclimaterra, donc nous en région Nouvelle-Aquitaine, la conclusion du cahier numéro 4 d'Aclimaterra, il est titré, je peux le dire mot pour mot, « Gestion quantitative de l'eau et usage agricole sous contraintes climatiques ». Il a été publié par la région en janvier 2024 et il affirme la nécessité, je cite, « de recréer les conditions d'un débat plus rationnel et plus démocratique sur le partage de la ressource en eau sur les territoires ». Donc j'ai bon espoir tout simplement, parce qu'il serait quand même incohérent que l'exécutif régional d'Alain Rousset promeuve un GIEC Aclimaterra, nous, au niveau régional, qui demande plus de démocratie, parce qu'on sait que la démocratie de l'eau, c'est un fondamental pour avancer sur ces questions-là, et puis qu'en même temps, on puisse avoir un veto de l'exécutif qui n'accède pas finalement à cette demande citoyenne. Et cette demande citoyenne, c'est tout simplement, je le répète aussi, du bon sens.
Et puis de l'apaisement.
Et de l'apaisement, tout à fait, dans mon territoire. Vous avez tellement raison de le souligner.
Merci beaucoup, Stéphane Trifiletti, donc conseiller régional de Charente-Maritime et co-président du groupe Écologiste Solidaire et Citoyen à la région Nouvelle-Aquitaine. Merci d'être intervenu dans Séquence Midi.
Bonne journée à vous.
Bonne journée. Et on accueille tout de suite Candice Mottet-Debert, médiatrice du cinéma Le Dietrich. Bonjour Candice.
Bonjour à toutes et à tous.
Et aujourd'hui, tu nous emmènes en Islande.
Tout à fait. Alors cette semaine, on a deux films qui sortent et je décide de vous parler un petit peu des Belles Créatures. Les Belles Créatures, c'est le deuxième film de son réalisateur. Attention, Gudmundur Arnar Gudmundsson, réalisateur islandais. Je ne vous fais pas l'offense de lire les noms des acteurs et des actrices. Donc c'est un film qui a été fait en 2022 et puis qui a fait un parcours de festival dans lesquels il a été très remarqué. Il sort enfin sur nos écrans, c'est une sortie nationale aujourd'hui. Et c'est un coming of age ou un teenage movie islandais. Adi, 14 ans, est élevé par sa mère clairvoyante qui perçoit l'avenir dans les rêves. Il prend sous son aile Bali, un garçon introverti en marge, victime de harcèlement scolaire. En l'intégrant à sa bande, ces garçons désœuvrés et livrés à eux-mêmes explorent la brutalité et la violence comme seul moyen d'expression et d'exister. Alors que les problèmes du groupe s'aggravent, Adi commence à vivre une série de visions oniriques. Ces nouvelles intuitions lui permettront-elles de les guider et de trouver leur propre chemin? Alors c'est un film contemporain sur la jeunesse islandaise. On sait que dans ce pays, les jeunes sont peu nombreux. On sait que dans ce pays, il y a peu de villes, il y a peu de places pour une jeunesse et du coup qui s'exprime par la violence. C'est très intéressant. Ça vaut vraiment le coup d'être vu. Et nos amis critiques du site Abus de Ciné nous disent « L'un des plus beaux films du Festival de Berlin 2022. Une belle et amère réflexion sur la responsabilité qui convoque aussi la notion d'amitié comme ciment des relations saines. » Ça s'appelle « Les belles créatures ». C'est réalisé par Gudmundur Arnar Gudmundsson et c'est à partir d'aujourd'hui au cinéma Le Dietrich.
Quelle belle prononciation. Et maintenant, tu nous mets au boulot.
Au boulot. Alors oui, événement surprise. Ce n'était pas prévu dans notre programme, mais on n'a pas pu refuser. Au boulot, c'est quoi? C'est le nouveau film du duo Gilles Perret et François Ruffin, notre député. Alors, après... Merci Patron, qui avait été bien sûr césarisé, Je veux du soleil sur les gilets jaunes, Debout les femmes sur les femmes de ménage et les métiers du care qui sont invisibilisés. Cette fois, Gilles Perret et François Ruffin prennent à contre-pied leur projet. Au boulot, c'est quoi? Alors je voulais le résumer. Mais c'est quoi ce pays d'assistés et de feignasses? Sur le plateau des Grandes Gueules, l'avocate parisienne et polémique Sarah Saldman s'emporte. Elle dit « Le SMIC, c'est déjà pas mal ». D'où l'invitation en face d'elle de François Ruffin. Alors je vous demande, Madame Salman, d'essayer de vivre pendant 3 mois avec 1300 euros. Ce à quoi elle répond, admettons, une seule semaine, ce sera déjà pas mal. Et pendant une semaine, François Ruffin va réinsérer les riches, il va réinsérer Sarah Salman dans la vie quotidienne des travailleurs et des travailleuses du quotidien en France. Et avec cette question, bien sûr, peut-on réinsérer les riches? Question on ne peut plus contemporaine. C'est une comédie documentaire, bien sûr, hein, caustique, sur le même modèle que leurs anciens films, avec des rires et des larmes, et qui met surtout à l'honneur ceux qui tiennent le pays debout. D'ailleurs, François Ruffin dira, ce n'est pas tant un film sur Sarah Salman, qui en plus, depuis, a eu des nouvelles polémiques, mais c'est bien un film sur tous les gens qu'elle va fréquenter, et les gens dont elle va apprendre le métier pendant une semaine, qui vont lui apprendre ce que c'est que de travailler quotidiennement pour avoir un SMIC. Il dit également... Ce film est un pied de nez aux chroniqueurs télé qui critiquent constamment les gens au RSA dans notre pays. Ça s'appelle « Au boulot ». On le fait en avant-première samedi, là, samedi 28 septembre à 16h. Et Gilles Perret, le co-réalisateur, sera présent. Il est venu présenter chacun de ses films au Dietrich. On ne change pas une équipe qui gagne. Ça s'appelle « Au boulot ». C'est co-réalisé par Gilles Perret et François Ruffin. Et ça sortira ensuite au Dietrich le 6 novembre.
Merci beaucoup Candice, on te retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres conseils cinéma. Et pour vos autres idées sorties, voici votre agenda. Débuter avec ChatGPT et l'IA, c'est à l'espace Mendes France à 14h30, apprendre à dialoguer avec le fameux ChatGPT et à interpréter ses réponses. C'est pour les adultes et les enfants à partir de 12 ans et le plein tarif est de 15 euros. Ça dure 1h30 et la réservation se fait en ligne sur le site de l'EMF. De 16h à 23h, c'est la crémaillère du tiers-lieu La Franchie, le tiers-lieu de La Fève, rue Monseigneur Augouard à Poitiers. Donc l'occasion de découvrir cette association pour les jeunes et les enfants, et ça se passe donc en plein centre-ville de Poitiers. Table ronde de lutter contre la crise climatique à l'échelle de son territoire, c'est de 17h à 18h30 à la maison de la Gibauderie. L'objectif de ce temps d'échange, découvrir comment rendre sa ville et son quartier plus écologique et inclusif. Présentation des initiatives innovantes dénichées dans plusieurs pays d'Europe et regroupées dans le podcast Éveille ta ville. C'est un podcast d'ailleurs qui est soutenu par Radio Pulsar. Vous pourrez identifier les problématiques de votre territoire et retrouver des pouvoirs d'agir pour rendre nos lieux de vie plus solidaires et résilients. Donc le goûter sera offert, en plus et l'entrée est libre. La jam du wagon bar, c'est à 20h à la locomotive à Poitiers, une soirée d'improvisation musicale en public ouverte à tous et toutes, c'est de 20h à 2h, c'est tous les mercredis. Donc une jam session qui favorise au maximum l'improvisation musicale et l'entraide entre artistes et où chacune peut monter sur scène en bonne intelligence avec les autres. L'entrée est libre là aussi. Sur Pulsar à 21h, c'est l'indépendance, votre émission de Novopop, qui fête d'ailleurs son anniversaire bientôt. Et à 23h, dans Sonokino, c'est consacré à Michel Polnareff. Merci Yann pour la réalisation technique de cette émission. On se retrouve bien sûr demain à 12h30 pour une nouvelle édition de Séquence Midi. Et puis retrouvez-nous le 30 septembre, lundi à 19h, à l'île aux Tisons pour la soirée de rentrée de Radio Pulsar. On vous a prévu plein de belles surprises. Soyez au rendez-vous. Merci beaucoup. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne après-midi. À demain.